Bonjour, chers, non, mesdames, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes le 29 déjà, dernier jour de la retraite de cette première urbaine. Je ne sais pas si vous avez aimé, j'ai adoré. Et ce matin, au petit déjeuner, nous nous sommes dit que si nous pouvions avoir une retraite de 7 jours, 7 à 12 personnes ensemble en résidence, ce serait vraiment merveilleux. Depuis vendredi, on est ici et pour la première fois, on a couché ici, on a médité ensemble, on a mangé ensemble et ça m'a donné une. Les mots me manquent, mais je suis très très heureux de ce que nous avons. Des moments que nous avons vécu ensemble. Pour moi, c'était continuation d'une. Et peut-être. Un début à une réponse. Ou un souhait que Thaï nous a donné depuis qu'il est venu au Canada en 1985, de nous organiser pour être une communauté de pratique. Et une communauté de pratique que nous avons essayé de bâtir par différents moyens. Sans encore y être parvenu. Et Thaï me l'a encore rappelé à la retraite de Toronto. Une vraie communauté, c'est un groupe de personnes qui vivent ensemble. Nous avons pu le faire à trois personnes pendant 2 jours. Ça m'a permis de pouvoir voir comment ce message est pertinent et profond. Alors, je n'ai pas réussi dans cette mission. Je vous la partage. Pensez-y. Juste pour, je voudrais vous introduire, vous présenter mon frère, Nam Chen-Hu. Plus proche que Nam, sur le chemin de cette pratique, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en ait qui soit plus près de moi que mon frère Jung-ho. Nous avons commencé à peu près en même temps, quand Thaï était arrivé au Canada. Nous avons fait nos premières retraites ensemble. Lorsque je me suis engagé à bâtir le village des Érables, parce que j'étais ingénieur en construction, j'avais la grosse part du gâteau par mon expertise technique, tout simplement, et mes connexions. Mais Cheng Ho était toujours là. Et Cheng Ho était toujours là avec mon autre frère, Cheng Sun. Et ils étaient toujours là, souriants, pour nous supporter. Et je me souviens encore qu'il était là en camping. Alors qu'il n'y avait rien encore, juste un petit camping au bord du lac. Mais la présence était toujours là pour nous supporter. Nous avons reçu les 14 entraînements ensemble dans cette première retraite au village des Érables. Et je me souviens encore, quand Thaï était arrivé au village des Érables pour cette retraite, il n'y avait pas encore d'accès pour le building. Alors, ils ont dû le mettre dans un boule, et puis ils l'ont lifté avec le boule, puis ils l'ont débarqué. Et naturellement, une fois là-dedans, ben, ils ne pouvaient plus sortir, donc on l'avait tenu là comme il faut. Et toute la nuit, il y avait comme un incessant va-et-vient de camions de la carrière de Gravel jusqu'en haut de la montagne où le Zendo était pour pouvoir remblayer autour et mettre l'échelle qui pouvait permettre l'accès au village. Alors, lorsque vous allez au village des Erap maintenant et que vous avez des escaliers pour monter, imaginez-vous que 5 pieds plus bas, c'était comme ça quand Trai était arrivé. Et toute la terre qu'il y a autour, ça a été remblayé à partir d'une carrière en bas du lac. Ça, c'était un petit ajout à l'histoire que j'ai racontée hier. Et hier soir, on a eu la chance, autour de dans ce cercle, de parler de l'histoire du bouddhisme. L'histoire du bouddhisme depuis les tout débuts, au 1er siècle de notre ère, et 600 siècles, 6 siècles avant Jésus-Christ, comment le bouddhisme est arrivé jusqu'à nos jours. Il y a plusieurs, et c'est ça qui m'a un peu tenu éveillé hier soir, et c'est pour ça que ce matin, je me suis levé plus tard. Mais ça ravivait beaucoup de choses et de souvenirs et de beaux souvenirs qui m'ont fait sourire. Mais aussi une certaine anxiété reliée à un travail non accompli ou pas encore accompli. Et la tâche est encore longue, le chemin est encore long. Et merci d'être là pour sur ce beau chemin. C'est très solitaire. Et les amis sont importants. Le bout de l'histoire qui manquait, c'est comment cet enseignement, l'enseignement de Thaï, a commencé en français. Thaï, je vous l'avais mentionné, avait commencé à enseigner en vietnamien pour les boat people. Il a aussi enseigné aux États-Unis à la demande des élèves de Roche Becker. Le village des pruniers à ses débuts était en anglais et en vietnamien parce qu'à cause de la présence des étudiants américains, les Joubous, beaucoup de juifs américains ont épousé cet enseignement. 1994, j'ai reçu la lampe de notre maître et j'ai demandé la permission de faire mon discours de transmission en français. Quand nous recevons la lampe, comme Antjung Ho l'a reçue et comme Lily l'a reçue, nous devons remettre à Thaï un gata de Insight Gata. Et nous devons aussi donner un enseignement, un court enseignement de 5-10 minutes en présence de Thaï, en présence de vieux monastiques, de hauts monastiques, comme une assemblée. La même assemblée que hier, je voulais. J'ai décrit au pic des vautours lorsque le Bouddha parlait. Et la raison pourquoi j'ai demandé à le faire en français, c'est parce que c'était la seule langue dans laquelle j'étais confortable. Je ne pouvais pas parler anglais, ou bien je pouvais juste dire bonjour, bonsoir. Mon vietnamien était très limité parce que je suis né en France, et j'ai fait toutes mes études en France, toutes mes études en français, dans les lycées français. Et je me souviens encore que mes profs m'enseignaient que mes ancêtres étaient des Gaulois. Regardez-moi, puis on me dit que mes ancêtres étaient des Gaulois. Alors donc, même si je suis jaune et de parents et ancêtres vietnamiens, j'ai aussi une très grosse partie de moi qui était beaucoup plus français que vietnamien. Et j'ai trouvé Vous savez comment sont les Gaulois, Astérix et Obélix. On a ce complexe de. Je ne sais pas trop comment appeler ce complexe, mais on se sent toujours comme attaqué par les Romains ou bien brimé par les Anglais. Mais ça fait partie de notre karma. Et j'ai ça très fort en moi aussi. Et quand j'ai été au village des Pruniers, mon premier voyage en train à mon retour, et je ne sais pas c'était quand la dernière fois avant ce voyage en train où j'ai vu des coquelicots, des champs de coquelicots en fleurs. J'ai trouvé ça. Je me suis senti chez moi dans ce train en Provence. Et lorsque j'étais arrivé au village des Pruniers, je m'attendais à pouvoir poursuivre, continuer ce chez moi en France, en français, pour m'apercevoir que les deux langues qui étaient là étaient l'anglais et le français. C'était pour ça que j'ai demandé, pour rendre hommage et pour remercier la terre de France de recevoir le village des Pruniers, de recevoir et d'être le berceau de cet enseignement, et en reconnaissance à cela, de pouvoir donner mon enseignement en français. Et aussi de demander la bénédiction et l'autorisation de travail pour pouvoir contribuer à développer son enseignement en français. Le Québec est aussi francophone. Et dans l'assemblée, il y avait Moine Doshi. Je ne sais pas si non, vous ne pouvez pas l'avoir connu. Mais Frère Doshi est un frère français qui a rejoint le village des Pruniers. Et il vient d'une tradition japonaise Soto. Et Thaï m'a dit, travaille avec Doshi. Les chants que vous avez entendus aujourd'hui sont des chants qui ont été mis en musique par Thaï Doshi. Et j'étais avec lui au village des Pruniers. Et c'est comme ça que ça a été commencé. Lorsqu'on l'a introduit au Québec, c'était quelque chose de bizarre. Et certains m'ont même posé la question, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi tu as inventé un truc comme ça qui paraît hors norme, en dehors des routes? Mais je peux vous assurer que c'était né au village des Pruniers et que j'ai eu la chance d'y travailler avec Frère Doshi. Il y a plusieurs chants qui se sont rajoutés par la suite, mais le cœur de la Prajnaparamita, d'ouverture et la fermeture, proviennent de cette époque. Alors ça, c'était pour vous partager notre contribution, la contribution de l'aile québécoise, de l'aile à la francisation de l'enseignement de Thaï. Maintenant, en France, il y a un groupe qui a suivi très très longtemps après. Et dans ce groupe, il y a celui qui est l'éditeur de Ici et Maintenant, Patrick. Et Patrick vient aussi du Québec. Et Patrick était aussi à nos tout débuts au village des Érables. Il venait régulièrement. À chaque fois qu'il revenait de Belgique et qu'il était au Québec, il venait au village des Érables. Il y a aussi Anne-Marie Ascension, qui est une Marseillaise et qui est maintenant Dhammacharya. Et il y a plusieurs autres Dhammacharya maintenant dans ce mouvement francophone. Et ils sont très, très actifs maintenant. Alors, je pense que si nous voulons continuer à développer l'enseignement en français, on aurait intérêt à se connecter avec le village des pruniers français. Je suis maintenant beaucoup plus avec le village des pruniers. Je ne sais plus où. Hier, on a eu aussi la chance de diffuser notre enseignement pour les sanghas américaines à partir d'ici. Et donc, nos amis ont eu la chance de pouvoir rencontrer aussi les amis des États-Unis. Dans mes voyages, j'essaie aussi de profiter de la présence des monastères en Thaïlande et à Hong Kong. Et il y a encore une autre porte que je n'ai pas encore. J'avais partagé ici à nos amis du corps que je pourrais peut-être être appelé à travailler en Allemagne pour 5 ans. La raison pourquoi je ne l'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas encore eu l'autorisation de mes autorités. Mais ce serait aussi une des ouvertures. En fait, je ne sais pas pourquoi je me suis... c'est un ajout à l'histoire d'hier où on n'a pas eu la chance de parler de l'aile francophone du village des pruniers. Donc, hier, je me permets de faire un petit récapitulatif pour nous ramener ici et maintenant. Je vous avais mentionné que cette année, nous allons nous engager dans une aventure très intéressante, amusante, avec le Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus qui est le roi des enseignements, et parce que c'est le roi des enseignements, il y en a beaucoup qui le vénèrent et qui le prennent, et puis comme plusieurs écoles bouddhistes dans le monde, et qui aussi effraient certains autres et qui disent « Ah non, c'est pas pour moi ». Parmi mes amis aux États-Unis, plusieurs ont émis cette réserve pendant qu'on préparait le cours et je leur ai dit « Trust me ». J'ai une vue très simpliste de toute la vie et Lotus, Sutra du Lotus, c'est la même chose pour moi. Il n'y a rien là-dedans. Ne vous laissez pas impressionner. Alors donc, j'ai pu en convaincre quelques-uns, mais quelques autres n'ont pas été convaincus et ils nous ont droppé. Mais là, je leur dis, c'est pas grave, faites ce que vous voulez. De toute façon, on est ensemble sur le même chemin. Parce que j'ai compris que le Sutra du Lotus dit exactement cela. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on étudie, on est là-dedans. Il y a seulement un enseignement. Et c'est l'enseignement des moyens habiles. Et le Bouddha, tout comme Thay, ont cette faculté de diagnostic. Il nous regarde et sait exactement ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin pour faire un pas. Aussitôt qu'on a fait le pas, il dit, ah, not there, un autre pas. Pour nous amener éventuellement à cette même place. Et lorsque j'apprends le sutra du lotus, des fois mon imagination se met à travailler et c'est ça qui est merveilleux avec le sutra du lotus, c'est que ça nous fait travailler par l'imagination. Alors je peux imaginer le Bouddha et le Bouddha dit à son frère Jésus, hey, va donc leur parler en, je ne sais pas dans quelle langue il parlait, Jésus. Hein? Aramien? Whatever. Ok. Chinois. Va donc leur raconter ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et là, naturellement, ben, Jésus est apparu et a commencé à... Et puis là, il a dit à son frère Mohamed, hey, « Hé Mohamed, veux-tu aller faire quelque chose là-bas? » Et c'est comme ça que toutes les milliers de bodhisattvas et les milliers de bouddhas sont apparus. Mais là, là, les frères ne se comprennent pas et se battent ensemble. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que c'est toujours le même enseignement et ce ne sont que des moyens habiles. Et le sutra du lotus peut être vu de cette façon. Et c'est comme ça que je, en tout cas, que je le perçois. Et je pense que c'est parce, si c'est ça ma perception, c'est que je dois faire un autre pas pour pouvoir changer de perception. Parce qu'aussitôt qu'on a croit à quelque chose, il faut tout de suite le lâcher. Et c'est exactement cela l'enseignement de Thay. Lily hier a dit, « Oh, j'aime mieux l'ancienne façon de réciter le gatha, les cinq commémorations, les cinq contemplations. » Mais vous savez, il y a une chose avec Thay, c'est qu'il jamais il y a quelque chose qui va rester plus que 2 ans. Aussitôt que vous devenez confortable avec quelque chose, il va changer. Parce que si vous avez compris quelque chose et que vous pensez avoir compris, vous venez d'être mort comme pratiquant. Lâchez-le, puis faites quelque chose de neuf. Les moyens habiles. Et ne nous laisse jamais nous reposer, toujours on the toe, toujours en train de marcher. Donc, on a parlé du one vehicle, du véhicule unique, de l'enseignement unique et des moyens habiles. Et puis, avec les moyens habiles, vous vous souvenez, j'avais invité toutes les autres sanghas à lire et à discuter sur la parabole de la maison en feu. Alors, vous voyez comment je suis, je dis aux autres de le faire, puis nous, on ne le fait pas. Mais la maison en feu, si vous avez la chance de le lire, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un papa qui est très, très riche et qui avait 3 enfants. C'est pas 3. Et il était parti en voyage d'affaires, il est revenu, puis de loin, il voit que la maison est en feu. Mais il sait que les 3 enfants sont en train d'être là-dedans, en train de jouer. Puis l'un avec un oui, puis un autre avec je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas avec leur jeu électronique. Et puis là, il sait que s'il allait les appeler pour leur faire... Et il y a le feu sorti, ils ne vont même pas faire attention parce qu'ils savent qu'ils sont trop occupés avec ce qu'ils sont en train de faire. Alors là, il a dit, « Hey, les enfants, je suis revenu avec vous ne savez pas quoi. Il y a un iPhone 5S, il y a un... je ne sais pas trop quoi. » Et puis là, tous les enfants, « Ah, waouh, on veut ça. » Puis ils sont courus pour... espérer recevoir ce qu'ils ont demandé au Père Noël. Donc, il y a le iPhone 5S, il y a la console, je ne sais pas trop quoi. Puis... Mais quand ils sont sortis, rien de ça. Luna dit non. Je sais que c'est ça que vous vouliez, mais j'ai encore quelque chose de mieux à vous offrir. Alors, dans la vraie histoire, c'était les 3 chariots avec 3 sortes d'attelages et ce que le Bouddha leur a proposé. C'est un bel attelage avec des chevaux blancs. Puis, l'histoire du prince charmant que vous comptez avant. Non, c'est pas ça. Alors, lisez-le, puis pensez-y. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer ou qu'on peut tirer comme leçon temporaire de ce beau conte. Et quand je l'ai lu la première fois, il y a 25 ans. C'était mon grand frère Cheng Wang, le vrai poète dont je vous ai parlé hier et celui qui a fondé le village des érables. Il m'a dit très très gentiment, tu sais, lorsque je lis ce sutra, alors c'est sa façon de m'enseigner ou bien de me diriger vers des lectures. Et quand je l'ai lu, La maison en feu, ben, je l'ai compris dans le temps, comme le temps est compté. Il n'en reste plus beaucoup. Et il faut se déniaiser. Wake up, do something. Et là, c'était sa façon de me dire qu'il faut que je travaille très fort pour bâtir le village des érables. Et c'est un moyen habile, et c'est parfait. Moyen habile. En vietnamien, il y a une traduction de ce mot. phương tiện thiện xảo. Et c'est l'expression que notre grand frère Chân Hội utilise souvent. Il est très smart, il a très belle tête. Et il dit, oh yes, et puis il aime beaucoup ça, puis il dit phương tiện thiện xảo. J'aime beaucoup le mot phương tiện, les moyens. J'aime aussi le mot thiện. Thiện qui est thiện là gì? Honnête. Bon. Xảo, j'aime moins. Xảo c'est sneaky, underground. And alors je parle des fois avec mon frère Chân Hữu, puis je dis, tu sais, phương tiện, good, yeah. Thiện, absolutely, c'est notre pratique. Mais xảo, je voudrais toujours être à l'écart de ça et ne pas être pris dedans. Et puis je pense qu'il y a la fin justifie les moyens, n'est pas notre pratique. Notre pratique, c'est que la fin et les moyens se confondent. Mais ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Et encore moins les moyens sneaky. Nous sommes tous des Bouddhas. Et hier, je vous avais parlé de la pratique que Thay nous a appris. Un lotus à vous, un Bouddha en devenir. Et je vous avais mentionné que si nous avons appris le sutra du lotus et que nous l'avons compris, cette salutation devient une méditation, devient une prière. Et il y a eu un Bouddha qui est devenu Bouddha juste par cette pratique. Vous êtes un Bouddha. Il s'adresse à un chien, puis il dit, tu es un Bouddha. Le Bouddha apparaît partout. Et effectivement, le Bouddha est partout et peut prendre toutes les formes. Alors nous parlons dans le sutra aussi de la manifestation du Bouddha. Alors oui, il y a eu ce Bouddha qu'il y a 2600 ans, pic de vautour. Mais c'est une manifestation. Et depuis, combien se sont manifestés. Et dans le sutra du lotus, il y a cette belle image où le Bouddha s'est fait demander, on va venir vous aider. Là, le Bouddha dit, non, on n'a pas besoin, regardez. Puis là, tout d'un coup, il émerge de terre. Toutes les milliers de Bouddhas sont apparus de la terre. Et lorsqu'on va au village des pruniers au printemps, il y a un festival. Le festival des daffodiles. Et lorsque toutes ces pousses sortent, Thay dit, regarde, c'est ça le... Et Thay enseigne le sutra du lotus de cette façon. Regarde tous ces trucs qui sortent, ce sont toutes les bodhisattvas qui émergent. Les images, les histoires, les enseignements. En fait, oui, les enseignements, on les a connus, on les a faits, mais les histoires, les paraboles, les images, le sutra du lotus, c'est un trésor pour ça. J'avais aussi mentionné hier, à la fin, que pour que le sutra du lotus prenne toute sa force et sa profondeur, qu'il fallait peut-être éventuellement, à un moment donné, regardez comment les autres écoles font, comment les Vietnamiens bouddhistes conventionnels font, et comment la récitation et les chants peuvent nous aider dans cette pratique beaucoup plus profonde, cette pratique au gut. Parce que lorsque c'est encore ici, et que nous pensons, il y a ce filtre de la raison qui nous empêche de pouvoir, ou bien qui filtre le travail de cooking. Mais on n'est pas encore rendu là, mais c'est juste parce que je sais, moi-même, comme ingénieur de formation, comme avec mon background un peu bizarre, quand je rentrais dans les pagodes et qu'ils se mettaient à incanter, puis chanter, puis avec tous leurs encens, pour moi, c'était de la dévotion sans aucune compréhension, mais j'étais arrogant. Parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a une façon, il y a des façons de pratiquer qui sont beaucoup plus profondes que par l'intellect. Et si nous nous fions seulement à l'intellect, nous pourrons juste comprendre. Mais pouvoir transformer, c'est une autre étape qui prend d'autres forces et d'autres énergies. Et j'ai pu entendre les moines tibétains chanter avec leur... En musique, c'est bizarre. Mais lorsqu'on est dedans, puis qu'on est assis en méditation, ces vibrations nous pénètrent et on sent cela. Et ce n'est pas de l'imagination. Mais c'est parce que lorsque ça sort de la raison et que ça pénètre dans notre être, on le sent vibrer. C'est ça qui se passe. Alors, de la même façon, le sutra du lotus peut être approché, étudié de beaucoup de façons. J'aime les histoires. J'aime les histoires magiques. J'aime les histoires fantastiques. C'est merveilleux. On peut aussi le chanter. Et je vous avais mentionné que plus les écoles aux États-Unis qui suivent les Japonais chantent comme les Japonais. Ils ne comprennent rien à ces mots-là. Puis le chant est très simple. Hommage au sutra du lotus. Hommage au sutra de la fleur de lotus. Qui s'éclot. Juste ça. Mais lorsqu'il chante, il touche à des choses qui sont beaucoup plus profondes et qu'on ne peut pas expliquer. Donc tout ça pour revenir à notre pratique. Le bouddhisme a commencé, le premier enseignement du Bouddha, les quatre nobles vérités, le chemin octuple. Et c'est cela, notre pratique. Si nous restons avec ce canevas et que nous allons ce soir, cet après-midi, partager, transmettre les cinq entraînements à la pleine conscience, c'est ceci la base de notre pratique. La souffrance existe, elle est là parce qu'il y a des causes à la souffrance. Et par la pratique des cinq entraînements à la pleine conscience, on pratique le chemin octuple. Et lorsqu'on pratique le chemin octuple, nous enlevons les causes de cette souffrance et il n'y a plus de souffrance. Et c'est ça. Et lorsque j'étudie, j'apprends tous les sutras, aussi compliqués qu'ils soient, je reviens toujours à cette chose-là. L'année dernière, nous avons étudié le sutra du diamant. C'était long, ardu, compliqué. Pour en fin de compte, revenir à quatre nobles vérités. Nous souffrons parce que nous sommes pris avec des notions et des concepts. Les notions et les concepts du soi, de l'être humain, des êtres vivants, de la vie et de la mort, ou de la durée de vie. Et parce que nous sommes pris avec ces concepts, parce que nous sommes conditionnés par ces concepts ou ces croyances, nous souffrons. Et le sutra du diamant dit « Enlève ces trucs et puis tu ne souffriras plus. » Yes! Quatre nobles vérités, une façon de voir les quatre nobles vérités. Et le sutra du diamant parle des quatre notions et des quatre concepts, mais toutes les notions et tous les concepts sont des causes, peuvent être des causes à la souffrance. Et donc, on peut comprendre le sutra du diamant lorsqu'il y a notion et concept. Il y a risque de souffrance lorsqu'on s'y attache. Et la notion de nirvana. Nirvana est cet état où il n'y a plus de concepts et de notions. Il y a nirvana, alléluia, plus de souffrance. Et là, ce que le sutra du lotus nous dit, si tu penses que le nirvana c'est ça, Si tu y es et que tu penses que that's it, yeah, you miss the boat. Parce qu'il y a un autre pas que tu peux faire. Et d'autres pas encore. Et c'est ça que le Sutra du Lotus dit. Le nirvana, ce n'est qu'un moyen habile. Le nirvana, ce n'est qu'une autre étape. C'est ce château dans le désert pour que les pèlerins puissent se reposer. Mais ceux qui restent là, ils sont foutus. S'ils ne parviennent pas à en sortir pour pouvoir cheminer. Et ce que le Sutra du Lotus dit, nirvana, c'est une étape. Nirvana, c'est un moyen habile. Parce que l'enseignement du Bouddha nous permet d'aller jusqu'à le Buddhahood. Puis le Buddhahood, c'est where is it? On ne sait pas. C'est ici et maintenant. I don't know. Donc, on a passé du Sutra du Diamant. On est parvenu au nirvana, puis là on dit que le nirvana, ben, pas nous, quelqu'un nous dit, et puis on a confiance, on sait qu'il dit la vérité, ce n'est pas encore ça, et qu'on va continuer. Et ce matin, on a continué dans le Sutra du Lotus, mais finalement c'est aussi le Sutra du Diamant, les deux dimensions, la vérité ultime et la dimension ultime, la dimension historique, et le Sutra du Diamant. Le Sutra du Lotus est divisé en deux parties. Il y a, je pense, les 12 premiers chapitres, ou les je ne sais pas trop quoi, qui parlent de la vie du Bouddha, donc la dimension historique du Bouddha, et un autre nombre de 12, quelque chose, de chapitres qui traitent de la dimension ultime. La vague et l'eau. L'eau et la vague, c'est une excellente illustration, une belle image, qui nous permet de comprendre le Sutra du Diamant, de comprendre la notion du nirvana, de comprendre la notion des deux dimensions. Et Thay, quand il enseigne le Sutra du Lotus, a introduit une troisième dimension. C'est la dimension de l'action. La dimension de l'action qui permet de passer de la dimension historique à la dimension ultime. Et la troisième dimension, c'est les 6 paramitas. Les 6 paramitas que nous avons déjà aussi étudiés. Et ceci met fin à ma présentation d'aujourd'hui. En fait, je voulais faire ça beaucoup plus court, mais vous me connaissez. Aussitôt, vous me donnez un micro, je n'arrête plus. Pauvre moi. Parce que je voulais surtout vous permettre de profiter de la présence de mon frère ici aujourd'hui. Et je lui ai invité à être ici sur le panel pour pouvoir faire ce que je devais faire hier, c'est-à-dire questions-réponses. Alors, il lui reste encore 15 minutes. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et nous poursuivrons notre retraite après cela. Merci.